poverty reveal. I would like to try your charity until you cry. Now you must try my greed. And everything depends upon how near you sleep to me. Just take this longing from my tongue. All the lonely things my hands have done. Let me see your beauty broken down like you would do for one you love. Hungry as an archway through which the troops have passed, stand in ruins behind you with your winter clothes, your broken sandal strap. I love to see you naked over there, especially from the back.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste sur le 89.4 FM et www.radio-libertaire.net. Fairy Club dans quelques instants.
Vous êtes sur Radio Libertaire en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Le Fairy Club, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, femme, vie, liberté.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Le livre du devoir s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir, à la lampe on le voyait, là-haut qui râlait sur la rampe, sous un golfe de jour pendant du toit. Pété surtout, vaincu stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines, il pensait là tranquille et livrant ses narines. Des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeuses espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout. Puant la foire et tout vieillot conversait avec la douceur des idiots. Lucile ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait. Les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. Forêt, soleil, rive, savane. regarder des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun, folle, en robe d'indienne, à 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos, en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et pareil, de meurtrie, des pointes et des talons, remportait la saveur de sa peau dans sa chambre. Sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve, noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg où les crieurs en 3 roulements de tambour font autour des édits rire et gronder les poules. Il rêvait la prairie amoureuse où des parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme ils savouraient surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, ils lisaient simplement sans cesse méditer. Plein de lourds ciels creux, de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé. Vertige, écroulement des routes et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier en bas, seul et couché sur des pièces de toile écrue.
Passer le temps, petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. Allant ces cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent, comme le fronde avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, et j'en dirai, tant fut cette vie aventure, où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets, et j'en dirai, et j'en dirai.
passer le temps. Je chante au violon, s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante. Près de moi dans l'ombre penchante, oui, pour passer le temps, je chante.
Maintenant, permettez-moi de passer effectivement aux femmes iraniennes. Ce n'est pas la première fois que les femmes participent à un mouvement social. Les femmes iraniennes, dès 1906, dès la révolution constitutionnelle, ont participé à la révolution. Une quarantaine d'entre elles a été d'ailleurs tuée. Et puis aussi, lors du mouvement pour la nationalisation du pétrole, elles ont aussi soutenu ce mouvement. Puis, très rapidement, je passe à la révolution de 79, à laquelle beaucoup de femmes iraniennes ont participé sans nécessairement avoir des revendications pour leurs propres droits. Alors, ironie du sort, un mois à peine après la victoire de la révolution, et contrairement aux promesses de Khomeini, qui était leader de la révolution, le port du voile devient obligatoire et une série de régressions sont imposées aux droits des femmes et aux droits familiaux, ce qui fait que, de façon automatique, des milliers de femmes descendent dans la rue contre le port du voile obligatoire et ces régressions. Bien sûr, j'y étais et on a été tabassés. Donc, je pense que là, il s'agit d'une société moderne, d'un côté, avec un régime en face, qui est un régime moyenâgeux, répressif, corrompu, et en même temps, des lois et des institutions archaïques qui, effectivement, placent les femmes sous la tutelle des hommes à vie, qui considèrent réellement les femmes comme des citoyennes de seconde zone. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Puis en 2009, lors du mouvement vert, les femmes, surtout les jeunes femmes, participent à ce mouvement. D'ailleurs, n'oublions pas Neda Rasoltan, qui a été tuée lors de ce mouvement. Et donc là, femme égale homme était l'un des slogans de ce mouvement. Enfin, les femmes iraniennes, on le sait, sont devenues les enjeux politiques majeurs. Ce sont elles qui vont défier, qui ont défié ce régime à maintes reprises et aujourd'hui, fort heureusement, soutenues par aussi beaucoup d'hommes et en particulier de jeunes hommes. Après l'assassinat de Jina Mahsa Amini, qui était comme une goutte qui a fait déborder le vase, puisque leurs revendications étaient déjà là. Et aujourd'hui, les femmes sont au-devant de la scène contestataire. Et pour la première fois dans ce pays, je pense que les hommes, en particulier dans la jeune génération, ont bien compris que c'est une révolution des femmes contre l'islam politique et que tant que les femmes n'aient pas obtenu l'égalité, eh bien, on ne peut pas parler d'un avenir démocratique pour ce pays. D'où l'importance des combats des femmes et de leur présence dans cette révolution.
De la gare d'Auteuil et des trains de jadis, t'amenant chaque jour venu de la chapelle, jadis, déjà pourtant combien je me rappelle. Après les premiers mois bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet Auteuil, et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Ta foi du charbonnier, m'en sens quelques tendances aussi franches à nier, mais si vite quitter au premier pas du doute. Et puis nous rentrions plus que lent par la route, un peu désécollé, chez moi, chez nous plutôt. Et déjeuner de rien, fumailler vite et tôt, et dépêcher longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne.
Dans le monde, à réviser tous vos machins, nous autres, on compte vos secondes. Y'en a marre, y'en a marre. Y'a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Y'en a marre. Y'a quelque temps, monsieur Franco, à peu près au temps des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Y'en a marre. Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Y'en a marre. Qu'elle vous a donc fait la lune pour vouloir lui refiler vos puces. La vie est courte et y'en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe. Y'en a marre. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait les étoiles pour vouloir leur filer les miches? D'ailleurs, au train où elles cavalent, faudrait peut-être consulter vos fiches. Y'en a marre. Est-ce qu'ils vous ont donc fait les hommes pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Y'en a marre. Y'en a marre. On vit, on mange et puis on meurt. Vous ne trouvez pas que c'est charmant et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements? Y'en a marre. Vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafiot, la société c'est pas de la tarte. Y'en a marre. Mais peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans nos ruines. Y'en a marre, y'en a marre.
Maman, tu sais pas ce qui m'arrive. Toi, Marie m'a quitté, je suis complètement déprimé, je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Et en plus, j'ai perdu mon boulot le même jour, tu te rends compte?
Victor, ta mère a un amant.
Hein?
Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui.
Hein?
À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle.
Voilà.
Et papa reste tout seul.
C'est qui?
Monsieur Borin.
Monsieur Borin?
Marié, deux enfants.
Monsieur Borin, celui-là, là? Oh la vache, le fumier.
Je te le fais pas dire.
Maman, t'es complètement dingue ou quoi? Et où tu vas aller? Et papa et moi? J'ai des problèmes, moi. Marie m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, je suis complètement...
Alors écoute, Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre.
Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes.
Je te dirai encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père.
Mais je rêve. Ma parole, je rêve.
Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes.
Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? Deux familles pour une vulgaire histoire de cul?
Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour. Mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça?
Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse.
Enfin maman, c'est une passade, il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer.
Mon petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour.
C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air.
Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'était drôlement chouette le cul avec votre père. Mais voilà, que vous voulez, maintenant, il se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même. Puis il y a autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis amoureuse. Je suis heureuse. Je nage dans le bonheur.
Jo visc a Sant Germain des Prés i cada nit surto al carrer amb en Verlaine, que encara vol remenar el cul i quan sortim a fer el taüt a prop del Sena sovint ens fa de temps la Polinera a qui agrada el comerç de les misèries. Però passa que ens foten al carrer de tot arreu per no tenir diners. Mireu aquests esgarriats, aquests poetes estripats i de pell verda. Mireu aquests tocats de l'ai que sembla que no surtin mai d'un pou de merda. Són rics a rebentar i de fet rebenten. No paren de somiar ni quan desperten mireu-los. Si cal, parlen en grec per omplir el pap a Sant Germain des Prés. Avui Sant Benoit i Visconti, a prop del Sena. Mireu aquell morri que riu, és Jean Racine o Valéry. Potser en Verlaine, vejam si us queda clar. Passa volants, perquè aquests pelacanyes són tan penseu-hi, traieu-vos el barret i saludeu a Sant Germain des Prés, a Sant Germain des Prés.
Écoutez le Ferry Club sur Radio Libertaire.
On ne pense plus, on projette, on étonne, on exaspère, on se regarde écrire. Mon Dieu, qu'ils doivent être bien malheureux, ces excités à la bave rentrée, devant leur papier, qui sera demain matin, dans tous les yeux, dans tous les petits bistrots. Dans les cabinets.
Qu'as-tu fait, Popole ? Qu'as-tu fait de Saint-Germain-des-Prés ? Au flore, au fond d'un vieux pastis, j'ai vu trembler ta vieille église en un oquet des profondis. Le diable faisait ses valises. On a mis entre quatre planches la poésie et les chansons sur l'échiquier. Des reines blanches, les rois n'ont plus de pantalons. Et le huis clos du Montana, aux proserpines des deux sexes, qui s'offrent du caca-cola avec des pailles et des complexes. Le beau taulier des assassins qui joue les ragues non sans tarte et qui pour un vague boudin vous foutrez les poètes en carte. Qu'as-tu fait, Popole ? Qu'as-tu fait de Saint-Germain-des-Prés ? Ces amazones androgynes, tous ces sans-sans en chocolat et puis ces roses sans mortes, mais qui donc les ramassera? Toi, tu t'en fous, t'as pris la porte. Cependant que ta plume droit grince d'amour au rotatif et que je l'ai fait les 100 pas devant la pure alternative. En avoir ou n'en avoir pas, qu'as-tu fait, Popole? Qu'as-tu fait de Saint-Germain? Se font manger par un saxo des perles à l'eau minérale et des sous-produits de merci quand même, car ta magie a des appâts à coups de scotch et de poèmes. J'ai des clients, Dieu sait pourquoi, car dans cette Babel sonore qui fait des bruits comme un roulin, j'ai pu brouter mon héliport à l'enseigne de l'Arlequin. Qu'as-tu fait, Pompon? Qu'as-tu fait de Saint-Germain-des-Prés?
Bonjour madame, je vous avais dit que je passerais. Ils sont pas encore arrivés?
Non, ils vont peut-être arriver.
D'accord, ils arrivent vers quelle heure habituellement?
Moi, le pierre 8h.
Ils logent ici?
Ah oui, hein. Je prends la table, je le mets au long de mon buffet, et je mets des couvertures par terre avec des oreillers, et puis ils sont l'un à côté de l'autre pour dormir, quoi. Et puis j'en ai dans la cuisine. Je mets pareil, je mets la table près du buffet et puis ils dorment vraiment au chaud. C'est la galère de l'hiver, hein. Ils ont froid, ils ont faim. Ah, lève-la peut-être. Ah, ouais. Ça c'est mes enfants, ça, vous voyez.
Ils frappent à la fenêtre,
ah,
comme ça.
Ah, je suis contente parce que... Ah, si je peux faire plaisir, je fais plaisir. Allez-y.
Bonjour.
Bonjour,
mon grand.
Là, ce sont des garçons. Where are you from? Afghanistan.
Pour l'instant, il n'y en a que trois arrivés, mais après, ça va continuer, quoi.
Il y en a combien par soir qui viennent?
Oh, ben, j'en ai 5-6, plus demoiselles, là. Ben, ils ont l'âge de mes enfants, hein. J'ai eu 11 enfants. Donc, c'est comme si c'était mes garçons, quoi. Là, ils vont se préparer, ils vont jouer au jeu de dada. Il y en a 4 qui vont jouer au jeu de cartes. Il y en a 2 qui vont jouer au jeu de dames. Et puis, les autres, ils regardent la télévision avec moi. Et tous les soirs, on les passe comme ça. Cold, bah ouais, je sais. Ah ouais. Six dames, non problème.
Madame, vous êtes bénévole pour une association?
Non, je ne suis pas bénévole d'une association. Je suis une mère de famille. Non, je le fais moi tout seul.
Et comment ils savent que vous leur offrez l'hébergement le soir?
Eh ben, c'est parce que ça fait déjà 6 ans que je fais. Hein, je l'ai fait avec des Kosovo quand il y avait la guerre en Kosovo. Après, je l'ai fait quand Sangatte, il y avait Sangatte que c'était ouvert. Donc, j'en prenais aussi, là. Moi, j'ai des médicaments par là. Je leur donne des médicaments pour la douleur. Je leur fais des pansements s'ils sont un petit peu blessés. Et puis, ils passent une nuit au chaud. Et quand ils s'en vont le lendemain matin, eh ben, ils sont bien. Ils ont bien dormi. Je m'en vais à 8h30. Je prends 3-4 baguettes. Ça va pas me ruiner, monsieur. Je prends 3-4 baguettes. Je reviens ici. Je mets les baguettes sur la table. Je mets du chocolat, de la confiture, ils mangent la baguette et vers 10h, ils s'en vont dire bonjour à leurs copains sur le terrain. Et tous les soirs, ils reviennent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le week-end, qu'il n'y a pas de camion. Hein? Et le camion, ben, ils se renvont le dimanche après-midi. Alors, celui qui veut, il peut prendre une douche. Parce qu'il faut quand même aussi qu'ils se douchent. Hein? Ces gens, hein? Mais j'ai tout, j'ai leur paire de pantoufles, je peux vous le faire voir. Voilà. Ils savent, hein. Je prends mon sac de toutes pantoufles parce que ils aèrent leurs pieds parce qu'ils ont tellement mal aux pieds qu'ils ont marché. Donc, ils vont aller faire une petite douche de pied dans ma douche et ils se mettent en pantoufles, relax. Ils me disent merci, thank you very much. Ah ouais, c'est des gamins super, quoi. C'est des enfants. Ah ouais, hein. Ça va? Ça va, quoi.
Merci, mamie.
Et eux, vous les aviez hier? Les trois Afghans, là.
Ah oui, hein. J'en ai qui viennent, et puis bon, ben, des fois, j'en ai qui viennent pas, mais eux, ils disent, ça se transmet de en haut sur le terrain. Moi, ils m'appellent mamie. C'est mieux pour eux, ben, peut-être parce que je suis quand même âgée par rapport à eux, hein, faut dire ce qu'il y est. Donc, vous voyez, ils vont mettre leur linge ici, là, ils vont accrocher leur manteau, hein.
Puis, donc là, en fait, ils sont au milieu de vos enfants. Vous avez deux enfants, là.
Ah oui, ils sont... Ah bah oui, mais ça, Kevin, ils connaissent Kevin, hein. Parce que Kevin, il va jouer au football carrément avec eux sur le terrain. Donc, il est conçu... Hein, good, Kevin?
Good, Kevin. Good. Good. Thank you, mommy.
Donc, ils considèrent Kevin comme leur frère. Hein?
Very nice.
Voilà. Goodbye. Jamais je leur demande un centime pour les héberger. Jamais je leur demande un centime pour prendre une douche. Bien sûr, les CRS, ils les questionnent pour voir si c'est une question d'argent, si je les prends, parce qu'il y a des gens qui les font payer la nuit. Et ça, c'est interdit. Faut pas profiter d'eux pour les prendre pour leur argent. Non, quand, au contraire, quand il y a quelqu'un qui me dit qu'il veut que je fais une bâtée pour lui laver son linge, il me donne 2 euros pour acheter un petit peu de poudre. Alors moi, je lui dis, thank you, very much. Non, toi, avec 2 euros, tu vas à Marquette et tu t'achètes un paquet de biscuits. Moi, j'ai pas besoin de 2 euros pour ta poudre. C'est parce que toi, après, t'as plus de monnaie et c'est toi qui es dans la galère. Moi, je suis pas dans la galère. Garde ton argent. Et puis c'est tout.
Il est interdit de venir en aide aux sans-papiers.
Ben oui, mais je vous comprends très bien, monsieur. Mais quand vous voyez un jeune garçon de 16 ans sur le terrain, en ce moment, avec les mains gelées, les pieds gelés, ou avec une fracture, et puis qu'il hurle dans l'herbe. Écoutez, monsieur, j'ai mes propres yeux pour regarder, hein, je suis là tous les jours. Et puis qu'il hurle dans l'herbe parce qu'il a des douleurs. Est-ce qu'on est humain pour laisser un petit garçon comme ça sur le trottoir, ou est-ce qu'on va lui dire, bah, j'ai de la place, et viens se réchauffer chez moi? Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser comme ça, je ne peux pas. Il faut qu'il vienne chez moi, et je les ai ramenés, et de fil en aiguille, bah, c'est d'eux-mêmes qui disent, va chez mamie, et puis voilà, hein. Qu'est-ce qu'on fait de mal de les aider? Après tout, je suis d'accord, c'est pas notre devoir de les aider. C'est plutôt carrément au gouvernement de les aider. S'ils veulent pas les aider, bah nous, on les aide, hein, parce que c'est quand même des êtres humains, monsieur.
Là-bas, là-bas, l'air merveilleux.
Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis. Moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd. Le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure. Nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur. Je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier au Hans-Solerne, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un teint d'hirondelle sur le canapé du bordel. On venait s'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage. Au-dessus des maisons des quais, je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches. Et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence, elle travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures. au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent.
Je m'appelle Francine Christophe. Je suis née le 18 août 1933. 1933, c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. Voilà. C'est mon étoile. Je la porte sur la poitrine, bien entendu, comme tous les Juifs. C'est gros, n'est-ce pas ? Surtout sur une poitrine d'enfant, puisque j'ai 8 ans en ce moment-là. Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je rappelle que nous étions des enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégiés. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2-3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Et elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment, complètement par terre, fichu. Je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Ça ne se voyait pas, évidemment, elle était si maigre. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit « Tu te souviens que je garde un morceau de chocolat ?»« Oui, maman. Comment te sens-tu ?»« Bien, maman, ça peut aller. » Alors, si tu me le permets, ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. Oui, maman, tu le prends. Hélène a accouché, elle a accouché d'un bébé. Toute petite chose malingre. Elle a mangé le chocolat, elle n'est pas morte, elle est revenue dans la baraque. Le bébé n'a jamais pleuré, jamais, pas même Jean. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée, on a défait tous ces chiffons, le bébé a crié. C'était là sa naissance. Nous l'avons ramené en France. Tout petit truc de 6 mois, minuscule. Il y a quelques années, ma fille me dit, « Maman, si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour, ça se serait mieux passé pour vous. » Je dis sûrement, mais il n'y en avait pas. Plus personne n'y a pensé, même s'il y en avait eu. Mais tu me donnes une bonne idée. On va faire une conférence là-dessus. J'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour de camp, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde. Des anciens, des survivants, des curieux. Et puis beaucoup de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, tout ce monde a venu. Très intéressant. Chacun avait son idée, c'était très bien. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit, moi, j'habite Marseille, je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. Elle fouille dans sa poche,
Elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis le bébé ».
C'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Des fleurs dans des crayons, Debussy sur le sable, à Saint-Aubin-sur-Mer, que je ne connais pas. Des filles dans du fer, au fond de l'habitude, et des mineurs creusant, dans leur ventre tout chaud, des soutiens-gorge aux chats. Des patrons dans le sud, à Marne et pour les ouvriers de chez Renault. Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension 4, avec la bande dessinée chez MC2. Je suis demain, je suis le chêne et je suis l'âtre. Viens chez moi mon amour, viens chez moi, y a du feu. Chimpanzé glacé qui chante la musique avec moi doucement, et toi tu n'as rien dit. Je vois des multitudes, je suis demain, c'est toi mon demain de ma vie. Je vois des fiancés perdus qui se dénudent au velours de ta voix qui passe sur la nuit. Je vois des odeurs tièdes sur des pavés de songe à Paris quand je suis allongée dans son lit, à voir passer sur moi des filles et des éponges qui sanglotent du suc de l'âge de folie. Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension X, avec la bande dessinée chez un ami. Je suis jamais, je suis toujours, et je suis X de la femme, de l'amour et de l'amour. Je vois des tramways bleus sur des rails d'enfants tristes, des paravents chinois devant le vent du nord, des objets sans objet, des fenêtres d'artistes d'où sortent le soleil, le génie et la mort.
Féricom Club. Bye bye.
te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesa que cantar. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Mi sed de amor no tiene fin. Cabello gris, así me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro,
qui t'entravait en chaîne, un courroux, une hypnose et des éléphants roses.
Telle, telle, telle est la télé. Telle, telle, telle est la télé.
De chers animateurs qui s'invitent à toute heure au banquier des grosses têtes, par cette les vedettes. Le grand confessionnal où au molasse plus sale et les pseudo-psychiatres qui t'endorment et te châtrent. Quelques marchands miracles qui délivrent l'oracle de sainte météo et qui se prennent pour son. Et les morts à l'appel, cadavres en ribambelle, au journal de 20 heures, faut que ça viole, faut que ça meure.
Telle, telle, telle est la télé. Telle, telle, telle est la télé.
Une drogue bien plus dure que n'était la voiture, une pique aux intenses, à haute accoutumance. L'absinthe en vente libre, des culs, des cons, des chibres, la partouze virtuelle, la mort du Père Noël.
Telle, telle, telle est la télé. Telle.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 27 mars 2024. Vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire. Exceptionnellement, nous allons rediffuser une émission récente, celle du 24 janvier de cette année. Nous recevions Éric Fougeron, des Amis de la Commune de Paris, pour présenter le livre « Les Inconnus de la Commune », livre auquel il avait participé. Notre ami Éric est décédé brutalement le 24 février. Aussi, pour lui rendre hommage et pour commémorer le début de la Commune, je rappelle que son assemblée fut élue le 26 mars. Nous rediffusons cette émission. Bonne écoute et nous nous retrouverons en direct le mercredi 10 avril pour recevoir Gennaro Toscano, commissaire de l'exposition consacrée à la Renaissance à la Bibliothèque nationale de France sur le site Richelieu. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 24 janvier 2024, 1h30 pour vous parler de livres et échanger avec des acteurs de la chaîne du livre, 1h30 jusqu'à donc 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Ce soir, Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et notre invité, Éric Fougeron, de l'Association des Amis IES et des Amis IS de la Commune de Paris 1871, pour nous parler d'un de leurs livres collectifs auquel il a largement contribué, ouvrage intitulé « Les Inconnus de la Commune de Paris » publié en 2023. Avant de laisser Marie mener cet entretien, je vous expliquerai pourquoi il nous a paru judicieux de recevoir Éric aux alentours du 22 janvier. Frédéric, il n'y a pas d'annonce particulière, mais moi je vais en annoncer une, c'est-à-dire la fête du livre. Le samedi 27 janvier et le dimanche 28 janvier, de 10h à 18h et le dimanche de 11h à 16h, des livres d'occasion, des livres neufs, de la BD, des romans, etc. Ce sont les éditions Noir et Rouge, 8 impasse Crozatier dans le 12e arrondissement, métro Federme-Chaligny sur la ligne 8, qui vous propose vraiment des livres de très belle tenue et à des prix défiant toute concurrence. En plus de nous écouter, vous pouvez nous écrire notre adresse postale. On a encore reçu aujourd'hui un numéro consacré de la revue 303, qui est une revue la revue culturelle des Pays de la Loire, consacrée à Michel Ragon. Je pense qu'on aura l'occasion de recevoir pas mal de revues, de livres consacrés à Michel Ragon cette année pour sa naissance. Bon. Librairie Publico, je rappelle l'adresse, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. On aime bien recevoir de vos nouvelles. Premier temps de l'émission pour alimenter le débat. Alors on va donner la parole à Agnès, parce que Agnès, l'art ne peut-il se pratiquer qu'à Paris ? Cette ville, surtout au début du siècle dernier, constituait un creuset intellectuel, et tu nous en avais fait part, voici une quinzaine de jours, lors de la présentation de l'exposition « Le Paris de la modernité, 1905-1925 ». Aujourd'hui, c'est un peintre qui a retenu ton attention. Alors, de quoi s'agit-il ?
Oui, il s'agit de Achille Loger, un peintre en hiver, écrit par Michel Tesser, publié aux éditions Serge Safran en 2023. En fait, c'est le récit comme un rendez-vous manqué. Michel Tesser entre dans l'intimité du peintre, les paysages, la lumière, les villages, les rencontres, la maison et les émotions d'Achille, comme si elle l'avait rencontré. Partager avec lui tout ce chemin, toutes ses pensées, jusqu'à appréhender la moindre chose de son existence.
Mais alors, qui est ce Achille Loger ?
Achille Loger est né en 1861 et décédé en 1944. Il était fils de paysan de l'Aude, de ces paysages méditerranéens entre Carcassonne et Toulouse, vers la Montagne Noire. Son père lui souhaitait une carrière de pharmacien pour l'éloigner de la dure vie de campagne, alors que lui opta pour une formation artistique en rejoignant tout d'abord les Beaux-Arts de Toulouse, puis Paris, où il rencontra des artistes et surtout trouva sa place artistique dans le mouvement de l'école des néo et post-impressionnistes.
Alors on va voir justement pourquoi, pourquoi j'ai posé cette question, est-ce qu'on peut exister ailleurs qu'à Paris sur le plan artistique ? Et c'est, je crois, dans les années 1880-1910, hein, c'est ça ?
Tout à fait, il s'installera d'abord rue Bonaparte, dans un petit logement précaire, où il invitera son ami à vie, Antoine Bourdel.
Mais le sculpteur, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Mais il rencontrera aussi Mayol et d'autres peintres comme lui de province qui essayent l'avenir d'artiste.
Alors, Bourdel et Mayol, ce sont deux sculpteurs qui sont promis à un bel avenir.
Une fois formé, oui, en effet, Achille Laugé, profondément attaché à son terroir natal, lui souhaite revenir à sa terre dans les petits villages qu'il affectionnait tant. On l'y retrouvera d'ailleurs marié et père de famille.
Lui donc, il rentre, il ne veut pas rester à Paris.
Il veut retourner dans sa province.